Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Grand Ciel qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque sur des sujets d'église, de société, et puis il y a toujours une petite anecdote finale, et ce sera le cas aujourd'hui. Mais nous avons un menu très copieux avec trois sujets, l'examen de la loi sur la PMA, le rapport du GIEC, et peut-être dirons-nous un mot de la harangue de la jeune Greta Thunberg à l'ONU, et puis nous parlerons, eh bien, peut-être, je ne sais pas si nous avons le temps, mais ça sera peut-être difficile, de la messe que vous avez célébrée hier chez les compagnons du partage.
Oui, bonjour Christophe, bonjour, plein de sujets intéressants.
Plein de sujets intéressants. Monseigneur, la loi sur la PMA a commencé d'être examinée par nos députés, l'Église prend position contre cette loi, comme elle s'était opposée il y a quelques années au mariage homosexuel. Dans votre édito, consultable, je le rappelle, sur diocèse-chartres.com, vous commencez fort, je cite, « Nos parlementaires s'apprêtent à voter une loi illégitime. Selon vous, pourquoi cette loi est-elle illégitime ?»
Si on prend la question de fond, bien sûr qu'il y a plein de sujets qui touchent, enfin qui sont touchés par cette loi, notamment la question du statut de l'embryon humain comme être vivant humain, et a-t-on le droit de le manipuler, de le trier, de le sélectionner, de le stocker, le congeler, le détruire? C'est déjà, de notre point de vue, l'Église, mon point de vue personnel aussi, c'est déjà illégitime de traiter ainsi un être vivant humain. Et puis cette loi aussi, le grand scandale de cette loi, c'est qu'on va institutionnaliser le fait de fabriquer des enfants qu'on va ensuite, implanter dans le sein maternel. Mais ces enfants, dès le départ, seront privés de père. Et ça, c'est... Il est légitime d'avoir un père et une mère, donc une loi qui interdit à un enfant d'avoir un père, ça devient une loi illégitime.
Oui, c'est la place du père qui est remise en cause aujourd'hui. Elle l'est de plusieurs manières, d'ailleurs, dans la société actuelle, mais spécifiquement ici, avec la loi sur la PMA.
Oui, alors il y a beaucoup d'avis qui sortent actuellement. On a vu l'Académie de médecine donc, qui a émis des réserves sur la PMA pour toutes les femmes. Du coup, aussi vite, la ministre a dit que cet avis était daté, que les fondements en étaient faux, mais l'Académie dit bien qu'il y a une véritable rupture anthropologique, c'est-à-dire quelle est la vision de l'homme. Pour nous, on a quand même cette vision de... à la fois naturel et en même temps révélé par Dieu par les Écritures, qui dit que Dieu crée l'homme, homme et femme, il les crée complémentaires, il les crée dans le but qu'ils s'unissent d'un amour et qu'ils procréent, que l'enfant vient donc de cette union d'un homme et d'une femme, et qu'il a le droit, dira l'ONU, la Convention des droits de l'enfant, l'enfant a le droit de connaître ses parents, père et mère, et autant que faire se peut, de vivre avec eux. Donc, oui, il y a un côté illégitime dans cette loi, même si on comprend que des femmes seules aient le souhait d'avoir un enfant, ou des femmes en couple, mais ce n'est pas légitime de priver un enfant de cela.
Vous redoutez, d'ailleurs, je vous cite encore, que cette loi entraîne une choséification aussi de la femme et de l'enfant, voire presque, on peut dire, une marchandisation de l'enfant, en tout cas.
Ah bah, derrière ça, il y a assurément un projet financier économique, c'est-à-dire que cette manipulation de l'embryon, elle vise à certes faire des traitements, peut-être, les gens le font peut-être dans ce sens-là, mais surtout c'est un marché colossal, oui. Ça concerne des milliards de femmes, donc demain, que se passera-t-il quand on ira encore plus loin, qu'on va par eugénisme faire des tris, qu'on va peut-être demander aux couples d'avoir d'abord une sélection avant d'avoir un enfant naturellement. Enfin bref, derrière, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est des laboratoires, c'est des start-up, c'est des entreprises privées qui vont pousser pour récupérer la manne.
Ouais. Il y a des limites, finalement. Au profit, là encore, il faut aussi le dire, finalement.
Bah, la France, quoi, en tout cas, n'a pas voulu que les organes humains, par exemple, soient vendus. Et ça me paraît très, très bien. Tout produit qui vient du corps humain, si je comprends bien la loi, ne peut pas être vendu. Mais demain, quand on aura la GPA, parce que c'est la gestation pour autrui qui va suivre, parce que les hommes, les couples d'hommes vont dire qu'il y a une discrimination à ne pas pouvoir avoir un enfant, donc ils voudront cette gestation pour autrui. Des femmes prêteront leur ventre, mais elles ne le prêteront pas gratuitement, sauf exception, elles le prêteront contre un revenu. C'est ce qui est le cas aux États-Unis, où ça coûte environ 50 000 $. C'est le cas quand on usent de femmes, notamment en Inde ou en Thaïlande, qui sont des mères porteuses en couveuse. Elles sont plusieurs dans une même chambrée, attendre 9 mois. Elles sont rémunérées, mais c'est considérer le ventre féminin comme un objet qu'on peut vendre. C'est de l'esclavage, en fait. Donc, sous couvert de bonnes intentions et non, il y a un abus profond.
Alors cette loi, dites-vous, permet la levée d'interdictions fondamentales telles que la création d'embryons transgéniques ou d'embryons chimères. Or, voilà ce que j'ai pu lire dernièrement sur lacroix.fr. Je cite « Fabriquer des organes humains à l'intérieur d'animaux ». Ce but était déjà poursuivi par plusieurs chercheurs américains et espagnols. Il va désormais être possible au Japon. Le pays a délivré pour la première fois fin juillet une autorisation à un chercheur du pays pour créer ce qu'on appelle des embryons chimères qui contiendront donc à la fois des cellules animales et humaines. C'est absolument incroyable. Ce chercheur Nakoshi prévoit d'introduire par exemple des cellules souches humaines dans des embryons de rats et de souris.
Non mais on va très loin. Alors d'abord, il faut savoir que c'est pas nouveau. C'est un de fantasme de l'homme. Hein. Vous savez qu'Hitler avait lui-même voulu essayer de faire un être moitié guenon, moitié singe et moitié homme pour avoir des soldats entre guillemets puissants et en même temps soumis. Donc ça n'a pas marché parce que d'abord les femmes allemandes ont refusé, mais ensuite parce que techniquement, il n'y arrivait pas. Mais si le Japon le fait, demain, un autre le fera aussi. Et puis quand 10 le feront, le 11e dira, bon, on va le faire aussi, parce que les voisins le font. C'est le cas de la PMA. Un argument, c'est de dire, en Europe, beaucoup de pays prévoient déjà la PMA pour les femmes seules. Donc pourquoi la France refuserait-elle ? La France doit refuser si elle pense que c'est pas le sens de la vie, le sens du progrès. Mais nos hommes politiques ont-ils le courage de regarder ça en face, ou bien succombent-ils, ce que je pense, à ce désir individuel immodéré qu'ont les gens aujourd'hui, qui entraîne une réclamation à chaque fois de droits personnels qu'il faudrait légaliser. Donc il y a un vrai problème de maturité, on peut dire, du comportement politique.
Deuxième sujet, le nouveau rapport du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est encore plus alarmant que les précédents. Le GIEC parle d'un immense bouleversement déjà à l'œuvre, avec son lot de catastrophes qui sont désormais inévitables. Et surtout, le GIEC évoque l'émergence d'un monde différent avec des conditions environnementales inédites depuis des millions d'années. Bref, c'est une véritable changement. Ah,
ce rapport du GIEC est important parce que le GIEC, ça regroupe 195 pays quand même. Donc, c'est vraiment un événement mondial. C'est un rapport très gros, hein. Je crois que c'est 900 pages, mais qui traite donc du réchauffement des océans et de la cryosphère, c'est-à-dire tout ce qui est gelé, c'est-à-dire les terres gelées. Donc les terres gelées, c'est principalement l'Antarctique et le Groenland, ce sont les banquises, et c'est aussi ce qu'on appelle aussi le pergélisol, qui est tout ce sol gelé, notamment au nord de la Sibérie. Hein. Donc tout ça bouge, indéniablement, comme conséquence, eh bien, les eaux montent. Alors elles montent à cause de deux choses, elles montent parce que de l'eau arrive de ces glaces qui fondent, mais aussi, comme la mer se réchauffe, elle se dilate. Donc, elle monte en volume, donc elle monte en hauteur. On a comme conséquence de... C'est vrai que l'océan est un poumon. L'océan absorbe une part gigantesque. Je crois 90% du gaz carbonique émis par les hommes, par le monde, etc., est absorbé par l'océan. Je crois que c'est 16 fois plus que l'ensemble des plantes et arbres de la planète. Donc, l'océan, c'est un poumon, c'est un régulateur... Il a une inertie énorme, donc il bouge doucement, mais quand il bouge, après, on ne sait pas l'arrêter. Il absorbe ce gaz carbonique, donc ça fait qu'on acidifie les océans. La conséquence est immédiate sur les coraux et les mollusques. La France, par exemple, a la seconde barrière de corail du monde. Hein, c'est en Nouvelle-Calédonie, c'est 1100 km de corail. On sait qu'on a perdu, avec le réchauffement et les canicules, une part importante de cette barrière. Donc, la montée des eaux, on a aussi dans le monde une part conséquente des habitants qui sont, je crois que 30% des habitants de la planète habitent à moins de 100 km des côtes. On estime que si on augmente de 1 degré la température des mers, il faudra que 280 millions de personnes se déplacent. C'est... 280 millions de personnes, on ne parle pas de 10 000 migrants là, hein. Donc ils vont se déplacer ou sur les parties plus hautes de leur pays ou bien ils partiront à l'étranger. En tout cas, et puis on a aussi beaucoup de terrains agricoles au bord de la mer. Donc ces terrains agricoles vont être inondés ou bien vont être salinisés. À chaque fois qu'il y aura une tempête, ça va monter plus haut. On va avoir des conséquences très graves. Je pense qu'il faut qu'on se réveille et ce GIEC a fait ce rapport. On a eu ces mouvements de jeunes la semaine dernière. Moi, je me dis que cette jeunesse qui bouge doit nous interpeller profondément. Ils étaient quelques millions, dit-on, dans le monde entier. Il y a cette figure de Greta Thunberg qui a crié, en quelque sorte, « Comment osez-vous nous imposer au fond cela ? Comment osez-vous ruiner notre futur ?» Une interpellation forte qui dit aussi le sentiment d'injustice que vit cette jeunesse. Moi, je pense que cette jeunesse, elle va bouger, elle peut bouger vite, elle peut bouger fort, elle peut bouger aussi violemment,
oui,
si on l'écoute
pas. C'est le risque. Oui.
On peut être très surpris par ces mouvements-là. Donc, il faut que nos hommes politiques se bougent et que nous-mêmes réfléchissions vraiment, oui, à un changement de comportement. Alors, c'est compliqué à envisager, mais que devons-nous faire ? Il faut y réfléchir, quoi.
Dieu peut nous aider ?
Peut-être, j'espère. En tout cas, j'annonce ça à ceux qui nous écoutent, parce que les évêques de France, donc on va se réunir en novembre comme chaque fois, pendant 6-7 jours, les évêques de France invitent pour chaque diocèse deux personnes laïques, principalement, je pense, qui sont impliquées dans cette réflexion écologique. Et donc nous aurons deux personnes du diocèse, donc du département d'Eure-et-Loire, en fait, qui vont venir avec nous pendant un jour et demi travailler ces questions-là.
Monseigneur, il nous reste vraiment 1 minute 30. On parlera la semaine prochaine, hein, de cette messe chez les compagnons de partage. Je crois que vous avez une petite anecdote à propos d'un film à nous livrer.
Oui, j'étais très heureux de pouvoir aller à une séance de cinéma qui a eu lieu à Chartres, à l'initiative d'un groupe de chrétiens qui ont proposé le film Interview de Dieu. C'est un film assez original. Ça raconte un reporter qui s'appelle Paul Asher, qui va en Afghanistan, qui revient assez chamboulé par ce qu'il a vu là-bas, et qui est sollicité par un homme qui lui propose un interview et qui se présente comme étant Dieu. Alors, est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il n'est pas Dieu ? On essaie de le comprendre dans le film. Et il va avoir 3 rencontres avec lui. En même temps, sa vie personnelle est assez bouleversée. Son ami menace de le quitter. Mais c'est intéressant parce que c'était, au fond, quelles questions voulons-nous poser à Dieu ? Il y avait 3 étapes, au moment où il était un peu, au début on jouait un peu avec Dieu, on essayait un petit peu de lutter en quelque sorte, puis un peu à la fois on finit par s'abandonner dans l'écoute de Dieu. Enfin, et surtout on a pu, après le film, pendant environ une demi-heure, faire un débat animé par le père Frédéric Roder, donc qui est vicaire avec Dominique Aubert, sur Galardon et Pernon, et ce père, Frédéric Roder, est assez féru de cinéma, assez apte à animer, donc c'était un moment très intéressant d'échange, et on va continuer chaque mois à proposer un film.
Merci Monseigneur, merci à Simon en régie technique, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Libre Propos. D'ici là, restez fidèles à Radio Rancière, la radio qui rapproche les hommes.